Radio Okapi. Grande interview.
À quelques jours seulement du jour du scrutin, la crédibilité du processus devient de plus en plus au cœur des préoccupations. L'Union africaine, la SADC et la CIAC ont déjà commencé à déployer leurs observateurs pour assurer la transparence des élections. Pendant ces temps, les restrictions des libertés et les violences se multiplient davantage, alors que l'Union européenne a reconduit pour une année les sanctions contre certaines autorités du pays, dont le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary. Pour en parler, grande interview reçoit dans ce numéro le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en RDC, M. l'ambassadeur Abdou Abari. Produite avec le concours de Alain Irung sous la supervision de Tina Salama, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Merci de rester à l'écoute. Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue à Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro l'ambassadeur Abdou Abari qui nous parle notamment de l'observation électorale, des sanctions de l'Union européenne contre les candidats du FCC, mais aussi de l'appel à l'apaisement durant cette période des élections et de la publication des résultats. Monsieur l'ambassadeur Abdou Abari, bienvenue dans Grande Interview.
Merci.
Merci beaucoup.
À quelques jours de la tenue des trois scrutins, comment les organisations africaines comptent-elles organiser l'observation électorale, surtout avec l'absence des observateurs de l'Union européenne et des États-Unis?
Merci de me donner cette opportunité à ce tournant décisif de la vie politique ici en République démocratique du Congo, d'ajouter la voix, ma voix, la voix de l'Union africaine à ce qui est en train de se passer. Comme vous le savez, le caractère central de la République démocratique du Congo dans notre continent, pour la sous-région des Grands Lacs, un grand pays continent comme la RDC avec 9 frontières, c'est un enjeu important pour la paix, la stabilité, la sécurité et, que dis-je, la prospérité de l'ensemble de notre continent. C'est pourquoi, à l'invitation de la CENI, l'Union africaine a été invitée à déployer des observateurs ici en RDC. Cela a été le cas pour les communautés économiques régionales comme la CEAC, la SADC, la CIRGL. Donc, à ce moment où vous me posez cette question, nous avons deux types d'observateurs au niveau de l'Union africaine. Les observateurs long terme, qui sont au nombre de 15 et qui sont là depuis une dizaine de jours, avec pour mission, eux, de faire l'évaluation du contexte longtemps avant la tenue de ces élections. Et dans un deuxième temps, du 15 au 28, nous attendons 80 autres observateurs qui vont rejoindre cette première équipe de 15. Et déjà pour le 17 décembre, nous attendons 50 observateurs de l'Union africaine qui vont arriver ici en Kinshasa. Donc notre objectif, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble des 26 provinces, c'est d'avoir une présence dans les 26 provinces. Maintenant, l'Union africaine n'est pas autonome, elle a des piliers, ce sont les communautés économiques régionales. Donc le fait que la SADC ait reçu la même invitation que nous et qu'elle ait décidé de mettre sur le terrain comme observateur un peu plus de 70 experts, le fait que la CEAC ait accepté également de déployer, si mes souvenirs sont bons, une vingtaine de personnes. Je viens de rencontrer des parlementaires de la CIRGL. Je pense que eux également, en termes de parlementaires, ils seront une dizaine. Donc nous nous sommes engagés dans une stratégie de bâtir une complémentarité entre l'Union africaine avec sa centaine d'observateurs, les 70 ou un peu plus de 70 de la SADC, la vingtaine d'observateurs de la CEAC, la dizaine d'observateurs de la CIRGL, de faire un maillage de façon à ce que dans la complémentarité, nous puissions observer en tant qu'Afrique.
Justement, la RDC, c'est un vaste pays, pays continent, avec plus de 140 territoires. Est-ce que vous allez travailler d'une manière collégiale ou coordonnée pour que vous ne vous retrouviez pas tous les observateurs déployés dans un coin, alors que dans d'autres coins, il n'y en aura pas du tout?
Quand j'avais parlé tantôt de coordination, c'est cela le sens que je donne à ce mot. Le 19 novembre dernier, on a tenu à Addis Abeba une réunion du Conseil Paix et Sécurité. Et un des paragraphes de ce communiqué du CPS indique clairement que l'Union africaine s'engage à travailler de façon harmonieuse et coordonnée avec les représentants des communautés économiques régionales dans le cadre de l'observation de ces élections. J'ai personnellement contacté l'équipe de la SADC avec laquelle nous travaillons en parfaite harmonie, de même que j'ai reçu formellement une lettre de la CEAC qui demande qu'il y ait cette coordination. Donc autant que faire se peut, dans le cadre du partage de rôles, on veut éviter que deux équipes ou trois équipes, Union africaine, CIRGL, SADC, CEAC, se retrouvent dans un endroit et que d'autres parties de la République démocratique du Congo ne soient pas couvertes. En tout cas, c'est l'intention de l'Union africaine et c'est le mandat que j'ai reçu de mener ici sur le terrain cette question d'harmonisation et de bonne répartition, disons spatiale, géographique, des différentes équipes d'observation électorale provenant de l'Afrique.
Alors, quelles garanties donnez-vous au peuple congolais que grâce à votre présence, grâce à l'observation africaine, les élections seront crédibles?
La crédibilité des élections, ce ne sont pas les observateurs d'abord qui la fondent. C'est un certain nombre de facteurs en amont. La question du fichier électoral qui a été repris. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de commentaires à faire ou de difficultés à ce niveau. Le mode d'élection qui a été choisi, la technique électorale ou la technologie électorale, qui, comme vous le savez, n'est pas le bulletin papier, mais la machine à voter. Il y a la confiance entre les acteurs politiques eux-mêmes. Il y a le contexte sécuritaire. Dans certaines régions, nous savons que c'est une préoccupation. Il y a cette terrible maladie d'Ebola contre laquelle nous luttons, nous, Union africaine, au diapason des autres institutions qui sont engagées aux côtés du gouvernement congolais qui, soit dit en passant, fait à cet égard un excellent travail. Donc tout ça, c'est quand même l'environnement. Maintenant, l'observation électorale vient compléter ce maillage parce que simplement, le jour J, on a besoin de voir que ce qui a été promis par la CENI, c'est ce qui est en train d'être fait.
Alors, Monsieur l'Ambassadeur, en cas de contradiction entre les résultats qui seront publiés par la CENI et les tendances que vous allez observer sur terrain, seriez-vous en mesure d'exiger la vérité des urnes?
Mais absolument, c'est ça le sens de l'observation. Vous observez et à l'issue de l'observation, vous faites une déclaration liminaire et puis vous faites un rapport, disons, consolidé pour dire que, en fonction de là où vous avez été, voilà vos principaux constats. C'est ça l'objectif de la déclaration. Et cette fois-ci, comme cela a été le cas dans beaucoup de pays africains, ce que nous comptons mettre en place, ce n'est pas une stratégie où chaque organisation, nous, Union africaine, les CER, chacun va aller de sa propre analyse. On compte coordonner notre présence aussi bien sur le terrain que dans le rassemblage des faits que nous aurons constatés de façon à ce que nous puissions aller vers une déclaration commune par rapport à la manière dont les élections se sont déroulées et aux résultats qui vont être donnés.
Vous Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit pour vous l'ambassadeur Abdou Abari. Il est représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Nous abordons avec lui la problématique des sanctions de l'Union européenne contre le candidat du FCC et les dérapages et violences observées durant cette campagne électorale. Monsieur l'ambassadeur, l'Union africaine avait plaidé pour la levée des sanctions contre Emmanuel Chadari. Comment avez-vous accueilli la prolongation pour une année de ces sanctions de l'Union européenne?
Merci. D'abord, je voudrais dire que on n'a pas pris position pour la levée de sanctions contre Emmanuel Ramazani Chadari. On a parlé de toutes les personnalités congolaises qui sont frappées par les sanctions. Notre position, elle est connue. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine n'a pas accepté l'imposition de ces sanctions aux autorités, à certains responsables de la RDC. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a tenu pratiquement, si mes souvenirs sont bons, au moins 3 réunions, dont la dernière le 19 novembre dernier, et il a été clairement indiqué que l'Union africaine demandait à l'Union européenne de lever les sanctions imposées à ces personnalités congolaises. L'objectif visé dans cette position, c'est de dire que lorsque quelque chose n'est pas efficace, n'est pas opérationnel, et que c'est même de nature à mettre une tension dans les relations, aujourd'hui, regardez comment les relations entre l'Union européenne, certains de ses États membres et la République démocratique du Congo se sont détériorés. Nous n'avons pas besoin de cela. L'Union européenne est un grand partenaire de l'Union africaine. C'est un grand partenaire de beaucoup de nos États membres. Ils font un travail exemplaire dans la plupart des pays africains en termes de respect des normes démocratiques, de promotion et de défense des droits de l'homme, la promotion de la femme et de ses droits, les questions de développement, les questions de construction. Et ici, en RDC, il faut reconnaître que, mis à part l'aspect politique qui n'est pas bien maîtrisé, je pense qu'il y a une coopération agissante, une coopération efficace. Et nous, notre plaidoyer, c'est de dire que là où nous sommes en tant qu'Union africaine, nous souhaitons que nos partenaires importants, au rang desquels l'Union européenne, puissent avoir la liberté de se mouvoir, la liberté d'agir, de sorte que dans la complémentarité et en unissant nos efforts, on puisse travailler la main dans la main aux côtés de cet important pays, je ne cesserai de le dire, qui est la République démocratique du Congo. Malheureusement, on n'a pas été suivi dans notre demande. C'est une décision souveraine d'une organisation très mature, l'Union européenne. Eux savent pourquoi ils ont pris cette décision et ils ont pris la décision en toute responsabilité. Il leur appartient d'assumer leur décision et nous respectons leur choix et nous respectons également la position qui est prise par la République démocratique du Congo à cet égard.
Alors, avez-vous l'impression que le renouvellement de ces sanctions contre les autorités congolaises joue sur l'amplification de la tension en RDC pendant cette période électorale?
A priori, je ne vois pas un lien entre les sanctions et puis, malheureusement, les incidents que nous déplorons ces derniers jours. Je pense qu'il est très difficile, en réalité, dans quelques pays que ce soit, qu'on ait zéro dérapage dans le cadre de l'organisation des élections. Donc il y a deux phénomènes ici qu'il faut souligner. D'une part, la responsabilité du gouvernement pour assurer la liberté de manifestation. On ne peut pas avoir des élections qu'on veut libres, crédibles et démocratiques sans qu'il y ait cette garantie de l'expression plurielle. Et je pense très sincèrement que depuis le début de la campagne, à part ces événements des derniers jours qui sont tout à fait regrettables, je pense que la dynamique a été plutôt positive. Maintenant, si le gouvernement a cette obligation, le corollaire de cette obligation pour les autres acteurs, c'est quand même d'avoir une conduite citoyenne, d'éviter l'incitation, les appels à la violence. D'un côté comme de l'autre, qu'il s'agisse du camp du FCC, du camp de l'AMUKA ou de CASH, je pense que les trois composantes ont une responsabilité historique.
Ne craignez-vous pas que ces violences qui s'enregistrent de plus en plus, avant-hier c'était Kindu, hier c'était Lubumbashi, Kalemi, et puis ainsi de suite, si nous continuons sur cette lancée jusqu'au 23, ne craignez-vous pas que ces violences déchirent davantage le pays au lieu de les réunifier par les élections?
Je constate qu'il y a effectivement ces dérapages. Mais je peux vous dire que, étant ici depuis quelques années, j'ai foi à la résilience du peuple congolais et j'ai confiance à l'intelligence des hommes politiques congolais. Ils savent, comme on dit, tout faire avec une baïonnette, sauf ce qu'il ne faut pas faire. Donc les enjeux sont importants. Un ou deux incidents ne peuvent pas permettre de croire que c'est l'ensemble du processus qui est en danger. Je crois qu'il y a eu ces incidents. Les leçons devront être tirées le plus rapidement possible, et parce que tous les candidats ont pris l'engagement de travailler, d'œuvrer à changer les conditions de vie et de travail du peuple congolais, devant cet engagement fondamental, aucun sacrifice ne sera de trop. En tout cas, personnellement, si je regrette, déplore ce qui s'est passé ces derniers jours, je ne perds pas espoir qu'il y aura un ressaisissement de l'ensemble de la classe politique de façon à ce qu'on aille à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de célébrer après le 23 décembre la première alternance démocratique pacifique pour le peuple congolais. Et il le mérite bien.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit ce jour le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine, l'ambassadeur Abdou Abari, qui appelle à des élections apaisées. Alors, monsieur l'ambassadeur, le porte-parole de l'AMUKA, madame Eve Bazaïba, a invité l'Union africaine à prendre une position claire face aux affrontements observés mardi dernier à Lubumbashi. Qu'en dites-vous?
Écoutez, ce que nous sommes en train de faire ici, qu'il y ait eu appel ou qu'il n'y ait pas eu appel, en tout cas avec ma sœur Leila Zerougui, avec l'ensemble du corps diplomatique ici, que ce soit mes collègues ambassadeurs africains, ceux de l'Union européenne, les ambassadeurs des États-Unis, du Canada, disons que au quotidien, c'est le travail que nous faisons. On n'a pas attendu un seul événement futile malheureux pour nous mettre aux côtés du peuple congolais dans sa quête de plus de démocratie, de plus de stabilité, de plus de paix et de plus de développement. Donc cet appel de Mme Bazaïba vient trouver déjà une porte qui est ouverte, parce qu'au quotidien c'est le travail auquel nous nous attelons, et je suis convaincu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'un incident de parcours ne permet pas de mettre en cause l'ensemble d'un processus chèrement mis en place et auquel je suis convaincu que l'ensemble des interlocuteurs, des acteurs politiques avec lesquels nous avons interagi, pas simplement maintenant, mais depuis bientôt quelques années, ils attachent du prix, et je suis convaincu qu'ils trouveront en eux les ressources pour transcender ces écueils de parcours de façon à donner toute sa chance d'aboutir à ce processus laborieusement mis en œuvre.
Alors, à quelques jours de la tenue des élections, les divergences autour de la machine à voter, des électeurs sans empreinte digitale n'ont toujours pas trouvé une issue favorable. Quels conseils prodiguez-vous aux uns et aux autres pour que les élections ne puissent pas trouver des obstacles ou des tensions face à ces divergences?
Vous savez, il y a un temps pour les divergences, Il y a un temps pour rejeter. Je constate dans tous les cas que même ceux qui avaient eu à rejeter la machine à voter à un certain moment, aujourd'hui sont d'accord pour qu'elle soit utilisée. Parce qu'ils ont compris que la machine à voter n'est qu'un moyen. Donc, en tant que moyen, ce n'est pas ça qui va empêcher la tenue des élections. Beaucoup d'acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité et d'une grande partie de l'opposition, sont d'accord pour qu'on l'utilise. Maintenant, bien évidemment, il y a d'autres acteurs politiques qui sont sur le terrain, qui sont importants également, qui estiment que la machine à voter ne devrait pas être utilisée. Donc, devant une telle situation, il y a un choix qu'il faut faire. C'est soit celui d'aller vers les élections avec la technologie qui a été mise en place, et puis on tient ces élections-là le 23, donc on donne la chance à l'alternance politique pacifique, ou sinon, si à 11 jours, on dénonce ce que la CENI a fait, on est obligé de consacrer un dépassement de la date du 23, et je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de qui que ce soit que cela arrive.
Est-ce que ça ne pourrait pas être une source ou soit un motif de contestation?
Mais vous savez, un motif de contestation, tout peut être un motif de contestation. La machine à voter peut l'être, le fait que les bureaux ne soient pas ouverts à temps, ça peut l'être, des problèmes dans le décompte des bulletins, ça peut être un autre, la question du stockage, de la sécurisation des urnes, peut être un autre problème. La mauvaise encre qui pourrait être utilisée peut en être un autre défi. Donc je ne pense pas que si le maillage est fait correctement, si tous les observateurs, tous les partis politiques ont mis des observateurs, des témoins dans les bureaux, qu'ils assistent au dépouillement des bulletins de vote, qu'ils puissent chacun se munir de son PV dans chaque bureau de vote, je ne vois vraiment pas de difficultés. Je n'en vois pas à ce niveau.
Alors la toute dernière question, Monsieur l'ambassadeur. Quelles sont, à votre avis, les conditions obligatoires à observer par les uns et les autres pour assurer l'apaisement du processus jusqu'à la publication des résultats?
Le peuple congolais est un grand peuple. C'est un peuple qui a une tradition de brassage, une tradition d'accueil, une tradition de pardon, une tradition d'assistance. Pratiquement tous les pays du pourtour de la RDC se sont adossés sur la RDC au moment où eux avaient leurs difficultés. Donc c'est une grande qualité d'hospitalité, de partage, de don de soi que les Congolais ont eu à administrer pratiquement tout au long de leur histoire. Donc à ce moment où nous entrons sur la dernière ligne droite, je pense que le meilleur comportement pour que ce processus soit mené à bien, c'est d'abord un comportement que j'appellerais un comportement citoyen. Éviter la violence, éviter les propos inflammatoires. Ce qu'il faut dire en Afrique, les élections doivent cesser d'être un moment de tension, un moment de division, un moment de combat. Ce n'est qu'au peuple souverain qu'on fait confiance. Le choix du peuple souverain doit être libre. Il doit être entaché d'aucune forme de violence. Je peux aussi dire que on gagne les élections avec des militants, mais on gère un pays avec les citoyens et l'ensemble des citoyens. On peut se faire élire par les militants du parti ou des regroupements de partis. Mais après, on se met au service de la nation, au service de tous. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va gagner parce qu'il est congolais et quelqu'un qui aura perdu en étant congolais et à qui on va dire de changer de pays. Les hommes politiques qui ont gagné devront pouvoir composer avec leurs autres frères parce qu'on est embarqué dans le même bateau. Ceux qui touchent le Congo positivement touchera la majorité, l'opposition et ceux qui ne disent rien par rapport à cela. Mais ce qui est mauvais sera également mauvais pour l'ensemble des acteurs, pour l'ensemble des filles et des fils du Congo. Donc je suis pour ma part convaincu que la RDC étant un pays de croyants, le pouvoir appartient par rapport à toutes nos religions. On dit que le pouvoir appartient à Dieu et il le donne à qui il veut. Donc je souhaiterais que nous prions le dimanche, que nous prions le vendredi, que nous prions tous les jours pour qu'il donne ce pouvoir ici au Congo au meilleur des candidats. Voilà un peu le sens de notre engagement et je suis convaincu, connaissant pratiquement l'ensemble de ces candidats, ayant interagi avec eux, je n'ai pas senti un comportement de va-t-en-guerre. Je n'ai pas senti un comportement de gens qui ne sont pas attachés à leur nation. Le fait que, quelles que soient les divisions, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il est congolais, tout le monde est d'accord pour que le pays soit uni, tout le monde est d'accord pour que ce pays-là soit prospère, parce qu'il a les moyens de nourrir ses filles et ses fils à travers les immenses richesses dont le Tout-Puissant a doté le pays. Maintenant, bien évidemment, il faudrait compris également où qu'on travaille de façon à ce que toute ingérence extérieure qui n'est pas de nature à permettre aux Congolais, qui sont les seuls à avoir la charge de choisir leur soutien, donc toute ingérence qui peut être de nature à déstabiliser le processus doit être proscrite. C'est le message de l'Union africaine. Ce n'est pas la première fois que nous le disons, mais nous profitons de votre radio, de votre micro également, pour l'amplifier. Et donc notre espoir, c'est de voir le 23 décembre d'abord se passer dans la paix, la sérénité, que les jours après se déroulent le plus normalement possible, que les résultats puissent être donnés de façon fidèle par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, que s'il y a des contestations, les contestations après toutes les élections, on en a vu, ce n'est pas l'apanage de la République démocratique du Congo. Il y a des institutions qui ont été créées pour connaître de ces plaintes, qu'elles soient utilisées et que ces institutions-là fonctionnent normalement, parce qu'à l'issue des élections, le seul gagnant, c'est le peuple congolais.
Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur.
Merci à vous et merci à Radio Okapi pour l'excellent travail que vous faites.
Fin de votre émission Grande Interview sur Radio Okapi, produite avec le concours de Alain Irung sous la supervision de Tina Salama. Cette émission vous a été présentée par Michel Kifindangoy. Merci de rester fidèle à votre radio, fréquence de la paix, Radio Okapi. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Merci et au revoir.